Bonjour, Copocas.
Bonjour et bienvenue sur le podcast Enfanter et Devenir, un podcast dédié au récit de naissance à soi et au monde. Naître à soi et naître au monde, des temps de passages forts qui peuvent revêtir des réalités bien différentes. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace de parole qui se veut libre et authentique. Je m'appelle Laetitia Boivin. Je suis une femme multipassionnée parmi tant d'autres. Doula, créatrice de Maman d'Alune et éducatrice Montessori et Nature dans l'association Brin de Curieux.
Je suis également la maman de 4 merveilleux enfants
qui a vécu des enfantements qui m'ont transformée. À travers ce podcast, je souhaite accueillir les femmes et les hommes qui le désirent à venir compter leurs enfantements. Libérer la parole, faire part de nos joies, de nos difficultés aussi, lever les tabous. Je suis profondément convaincue qu'à travers la naissance se jouent des changements incroyables pour l'humanité.
Dans le dernier épisode, je vous racontais le projet d'enfantement libre et autonome qui me tenait à cœur pour mon 4e enfant. Et du coup, je viens aujourd'hui vous raconter le récit de cette naissance incroyable qui s'est passée il y a 3 semaines maintenant.
Je vous souhaite une belle écoute.
J'avais envie de prendre le temps de raconter un petit peu le récit de la naissance de ma petite dernière, qui est tellement différente des autres que c'est ça qui est quand même bluffant, que je trouve particulièrement magique en fait, c'est qu'il n'y a pas deux naissances qui se ressemblent. Moi j'avais dans l'idée d'avoir un scénario un petit peu comme pour mes grands, une naissance assez rapide, parce qu'il faut savoir que la fin de la grossesse, ma bébé était vraiment très basse. Je pense que les 10 derniers jours, ça a été compliqué pour moi. De marcher, de monter les escaliers, régulièrement j'avais l'impression qu'elle était tellement basse que du coup, quand le travail se lancerait, ça serait hyper rapide. En l'occurrence, ça ne s'est pas passé comme ça. Moi, ça a été vraiment la plus longue des naissances que j'ai pu vivre. Après, ça reste relativement... Alors si on prend, à partir du moment où le travail était actif, il s'est passé 6 heures, donc c'est pas non plus... un délai de fou, mais en même temps, si on prend du moment où je me suis dit que la naissance était lancée, il s'est passé quand même presque 24 heures. Donc là, par contre, ça commence à durer un petit peu. C'est la nuit de lundi à mardi, donc la nuit de pleine lune, hein, ça n'a pas loupé, vous étiez nombreuses à me dire que ça avait joué pour vous. Donc à partir du moment où ma mini, donc à bientôt 3 ans, m'a appelé pour que je fasse un petit câlin la nuit. Je me suis recouchée avec elle comme on fait régulièrement et j'ai senti une grosse contraction. Là, j'ai senti le bébé descendre un peu. Je me suis dit, une contraction comme celle-ci, c'est vraiment une contraction qui annonce le travail plus actif, on va dire, quoi. Du coup, je suis descendue, je suis allée me mettre dans la petite ambiance qu'on avait prévue. J'allumais la petite bougie. Qui symbolise la présence de toutes les femmes à qui on a pu partager le moment du blessing way. Du coup, voilà, première grosse contraction, je m'installe dans la petite ambiance et pour moi, là, à ce moment-là, c'est parti. Je me dis que d'ici quelques heures, il y a mon petit bébé qui arrive et c'est chouette. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça parce que j'ai eu 3 grosses contractions à environ 5-10 minutes. Et en fait, où là je me dis ouais, ça y est, c'est parti. Et après, plus rien. Donc j'étais installée en face de la fenêtre où j'ai la chance de voir vraiment la pleine lune qui traverse. Donc c'était hyper joli, c'était un super moment. J'avais pas réveillé mon homme en me disant j'attends un petit peu de voir. Et au final, je suis allée me recoucher dans mon lit à 6h du mat. Un peu déçue de me dire bon, finalement, non, c'était pas ça, c'est bizarre, je sais pas trop. Enfin, bref. On a redormi jusqu'à peut-être 8h, 8h30. Puis c'était une journée où ma petite dernière allait à l'éco-crèche. Du coup, elle est partie. Le matin, je commençais à en parler, à me dire « Ouais, cette nuit, j'ai vraiment cru que le travail se lançait. Et puis, un petit peu les enfants, les grands, et puis mon compagnon qui me disait, ah ouais, bah, allez, aujourd'hui, c'est une belle journée et tout, ça peut être chouette. Sachant qu'on s'était posé la question, que ma grande avait plutôt envie d'être là. Mon grand, lui, il avait plutôt envie d'être gardé. Donc, voilà, on réfléchissait un petit peu à comment s'organiser, à se dire qu'éventuellement, les enfants pourraient aller chez des copains cette journée-là. Et voilà, du coup, on ne savait pas trop. Puis je disais aux enfants, mais ça sert à rien, si vous voulez rester à la maison, de partir à droite, à gauche, sachant que de toute façon, c'est pas vraiment lancé. Sachant que là, j'avais une grosse contraction, mais toutes les heures. Donc, toutes les heures, je me disais, ah ouais, ça y est, c'est parti, là, quand même, ça se lance. Et puis, en fait, plus rien pendant une heure, donc c'était un peu la déprime. J'en ai profité. Enfin, c'était vraiment une journée où j'ai pas fait grand-chose par rapport à la semaine, enfin les deux semaines d'avant où j'ai énormément jardiné, où j'ai été très active en fait pour plein de choses. Donc là, c'est vrai que je me suis fait juste brioche et yaourt au chocolat, et valeur sûre. Puis bah voilà, la journée c'est vraiment ponctuée de grosses contractions, mais pas plus. Quoi. Quand même, en fin de journée, j'ai mon homme qui me dit « Ah, c'est vrai que ce serait quand même peut-être pas mal de voir pour que les enfants, ils aillent chez mes parents. Ça pourrait être quand même pas mal de voir parce que là, ça va quand même finir par se lancer. » Entre-temps, j'avais quand même le bouchon muqueux. J'avais quand même perdu une grande partie du bouchon muqueux et je commençais à avoir des glaires qui étaient un petit peu saignantes. Donc je me dis « Ah ouais, il y a un tout petit peu de sang. » Donc ça a quand même bien joué sur le col et ça s'approche. Après, est-ce que ça s'approche une histoire de jour, ou est-ce que voilà, il n'y avait rien qui laissait penser que c'était vraiment imminent non plus. Mais finalement, c'était une très bonne initiative. Donc, ma petite dernière a été récupérée à l'éco-crèche vers 4h30. Et mon papa arrivait vers, on va dire, 5h30, 6h pour récupérer les enfants, pour les prendre tous les trois à dormir. Et quand ma petite est arrivée, elle a fait du coup une grosse tétée, sachant que, étant donné qu'elle boit le biberon, elle est un peu dans une confusion synthétine où la succion n'est pas très agréable. Donc on a fait beaucoup des petites tétées. Ces derniers temps, j'avais tendance à compter, on compte à 5, on compte à 10. Et à ce moment-là, du coup, je dis, bah, allez, vas-y, tête, fais-toi plaisir. Donc là, elle a tété pendant 3 quarts d'heure non-stop. Et en fait, ça a relancé à fond mes contractions. Et quand mon papa est arrivé, je commençais à avoir des bonnes contractions. Et alors j'ai su après que quand lui il est rentré à la maison, et qu'il a dit à ma mère, non mais clairement elle va pas coucher maintenant, elle était encore en train de parler et tout. Et quand ils sont partis, en fait vraiment le travail s'est lancé à ce moment-là, donc il fait à peu près 6 heures. Donc là j'ai commencé à accueillir les contractions, à me dire, ah tiens bon allez, cette fois c'est pour de bon, je pense que la bonne tétée d'avant a vraiment lancé le truc. Et c'est très marrant comme ça, ça a fait crescendo, parce que vraiment au départ, je sens les contractions, je me dis ouais, ça y est, ça arrive, ça passe bien. Je prends le temps de bien respirer avec les contractions, puis plus le temps passe, je me dis, respirer avec les contractions, ça suffit plus, maintenant il faut que je les accompagne en faisant du bruit. Donc je commence à vocaliser avec les contractions. Et là, le temps, bah, voilà, c'est, la distension du temps dans ces moments-là, c'est toujours assez compliqué. Donc, je ne vais pas avoir des horaires très fiables, ça va être un peu approximatif. Mais en gros, il y a vraiment le moment où... alors, moi, il faut savoir que à chaque fois que j'ai accouché, à chaque fois, il a fallu le moment où j'allais faire caca parce que c'était un petit peu désagréable, cette sensation de pesanteur. Et puis, je ne suis pas forcément complexée du caca, mais c'est vrai que... voilà, j'ai toujours fait ça, des allers-retours aux toilettes en plein travail, voilà, donc je passais la moitié de mon temps. Là, on n'avait pas forcément, comme pour ma plus grande, là, on avait installé le spa dans la véranda où il y a les toilettes sèches. Donc là, il n'y en avait pas dans la salle d'activité. Donc on a installé les petites toilettes sèches pour que je fasse des allers-retours entre les toilettes et le spa. Et du coup... un peu avant, je disais non, mais là, je me suis bien vidée de toute façon pendant le travail. Je n'irai pas faire caca tout le temps. Non, si, en fait, il y avait encore de quoi faire. Et du coup, voilà, au fur et à mesure que les contractions allaient crescendo, au fur et à mesure, je me disais, ah, tiens, dis donc, là, je sentais que je m'ouvrais et je sentais que le son que je devais faire était différent. Par exemple, au tout départ, j'étais vraiment sur du O, et après, en fait, je sais pas pourquoi, c'était du A. Alors ça, c'est très drôle parce que la visualisation que j'ai pu avoir était complètement différente de celle que j'avais pour les autres naissances. Là, je voyais le A avec comme un rayon de soleil, enfin comme un soleil, et les rayons, c'était les A qui s'agrandissaient comme ça. Et je visualisais mon col qui s'agrandissait en même temps. Et il y a vraiment un moment, alors je ne sais pas quelle heure il était, parce que du coup, je ne me rendais pas vraiment compte de l'heure, mais ça tournait, la nuit est tombée. Et je pense que vers les 8h30, 9h, il y a un moment où ça m'a fait tilt entre deux contractions. Je me dis, mais en fait, c'est pas de la douleur. C'est vraiment pas ça, en fait. Alors du coup, j'étais hyper contente. Peut-être que ça m'a ramené un peu dans le mental, donc c'était pas forcément une bonne chose. Mais de me dire, en fait, ouais, c'est vraiment pas de la douleur. C'est fort, c'est puissant. J'en parlais après avec mon homme. La tête que je fais, c'est pas du bonheur non plus. C'est pas de la joie, c'est pas de l'extase, c'est pas de... ouais, c'est pas du plaisir, mais en même temps, c'était vraiment pas approprié de dire le mot douleur, quoi. Donc toujours est-il que je commence à sentir la poche des os qui affleure vers 9h, 9h30 peut-être, la poche des os qui affleure, et donc pour mon deuxième et ma troisième, quand la poche des os a affleuré, quand elle s'est percée, en fait ils sont sortis dans la foulée à quelques minutes près, donc je m'étais dit, bah, voilà, la poche des os affleure... Donc, ben, le bébé va naître. Donc là, j'étais toujours dans le spa avec mon homme qui me massait. Alors au départ, il était très présent. On a vraiment vécu le travail, le début du travail ensemble. Et puis petit à petit, ben, il voyait que je partais en fait, je partais ailleurs. Et du coup, lui, il a pris de plus en plus de recul, notamment un moment en fait où quand il me touchait, ça me déconcentrait. Et du coup, voilà, je lui ai demandé à ce moment-là d'arrêter en fait les massages parce que j'avais l'impression que ça serait encore plus intense quand lui était présent. Après, je ne me suis pas rendu compte sur le moment de la naissance, mais après il m'a dit que ben, il se rendait bien compte que quand il sortait de la pièce, le travail s'intensifiait, quand il revenait, le travail ben, du coup ralentissait un peu, donc il a fait ses petits trucs à droite à gauche dans la maison. Toujours est-il qu'à 9h30 à peu près, quand la poche des os a rompu, et moi je me suis dit, bah super, mon bébé arrive, et en fait, bah, mon bébé n'est pas du tout arrivé, il est remonté à ce moment-là. Donc là, j'ai été complètement découragée de me dire, ah non, mais c'est pas possible, comment ça se fait en fait, je pensais que ça allait accélérer les choses, et pas du tout en fait. À ce moment-là, j'avais beaucoup la main à l'entrée de ma vulve. J'avais vraiment besoin de sentir la progression. Et à ce moment-là, en fait, je suis allée toucher à l'intérieur. Et j'ai senti que, bah, que le bébé était déjà bien remonté. C'était assez impressionnant. Je pense qu'il est remonté peut-être de 3 ou 4 cm à ce moment-là, approximativement. Hein. Et du coup, ouais, moi, j'étais assez découragée. Sauf qu'il y a une chose qui m'a un peu interpellée. Alors, je ne sais pas si ça a été tout de suite ou quelques contractions. Les contractions continuaient à revenir, mais elles étaient moins intenses. Et je me suis dit, waouh, les contractions... qui sont si peu intenses, en fait, ben là, elles ne sont pas efficaces, elles vont pas suffire, elles vont pas, ça stagne. J'étais pas hyper, hyper bien à ce moment-là. Et il y a un truc qui m'a interpellée, c'est que quand je touchais la tête de mon bébé, j'avais l'impression de sentir... comment dire, ben, je ne savais pas trop, en fait, si c'était un pli. Je me suis posé la question, est-ce que c'est un pli de la tête ou est-ce que c'est... finalement le cordon qui passe au-dessus. Alors sachant que en gros il y a deux options, soit c'était un pli du crâne du bébé et c'était quand même très impressionnant, soit c'était vraiment le cordon qui passait au-dessus et c'est ce qu'on appelle une proximance du cordon. Donc quand le cordon sort en premier, ben du coup là il y a, enfin nous dans les options c'était on se fait transférer, on va à l'hôpital. Donc moi je n'avais pas mal parlé bah, lors du dernier podcast, et puis c'est quelque chose qui était très clair pour moi. Autant on est OP pour vivre cette naissance à la maison sans avoir forcément de soutien et d'accompagnement médical, mais à côté de ça c'est vrai que c'est pas un refus total. Et si à ce moment là ça avait été le cordon, je pense qu'on aurait été bah, on se serait rendu à la maternité en fait. Donc toujours est-il qu'à ce moment-là, je sais pas, je doute, je me dis, ben non, je sens pas le cordon pulsé, donc ça doit pas être ça, mais quand même, c'est étrange. Donc on sort, et puis ça fait longtemps qu'on est dans l'eau et que le travail stagne. Du coup, à ce moment-là, on sort du spa, Et du coup, je demande un miroir pour pouvoir vérifier. Donc, je prends un miroir, je vérifie, et là, donc, ça me rassure. Je me rends compte que c'est bien le crâne du bébé qui est bien plissé, mais du coup, j'ai ma puce qui va se réveiller. Qui est bien plissé, mais du coup, voilà, c'est OK, en fait. C'est pas une histoire de cordon, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Là, je suis sortie de l'eau. Donc, j'ai essayé pas mal de postures différentes. Je me rends compte que quand je sors de l'eau, notamment pour aller aux toilettes, le travail se réintensifie, mais en même temps, je retourne dans l'eau parce que je trouve ça quand même chouette. Et quand je ressors de l'eau, à ce moment-là, donc, ça, je pense que ça m'a mis un petit coup de stress, quand même, le temps de vérifier. Puis il a fallu que je revienne vraiment à moi-même, en fait, parce que le temps de m'installer, de prendre le miroir, de vérifier vraiment la tête de mon bébé, savoir comment... savoir ce qu'il en était. Et donc, à ce moment-là, les contractions continuent à diminuer. Et là, je me dis, étant donné qu'elles diminuent comme ça, je ne suis pas prête de donner naissance. Donc là, c'est le moment où, finalement, j'ai là, pas mal de fatigue qui a accumulé, parce que donc, la veille, j'avais quand même très, très peu dormi, parce que c'était le début du travail. Et à ce moment-là, je pense que je retourne, on va dire, dans le vortex. Et du coup, à ce moment-là, je me mets en fait en mode veille. Je pense que je repars un petit peu. Alors, je ne m'assoupis pas vraiment. J'accueille les petites contractions qui viennent. Je me dis qu'elles ne sont pas suffisantes. Donc, il y a un petit côté où je suis un peu découragée aussi de me dire « Ouais, mais attends, combien de temps ça va durer? Comment c'est possible ?» Je ne suis pas inquiète pour mon bébé parce que je le sens bouger. Donc ça, déjà, c'est quand même hyper rassurant pour moi. Je sens que tout va bien, mais que c'est long. Et du coup, je me pose un peu la question. Je me dis que, je sens que les contractions font que le bébé descend, mais il remonte beaucoup. Et enfin, bref, là, il se passe une heure et demie. Bon, ça commence à faire drôlement long. J'ai mon compagnon qui est vraiment au top parce que c'est le moment où il s'écarte un petit peu, il revient, il est présent, mais vraiment pas trop. Et en fait, moi, je me rends compte de ça finalement. Si le travail s'est pas lancé, alors est-ce que dans la journée, c'est parce qu'il y avait les enfants et est-ce que j'avais vraiment besoin d'être libérée de... Alors, je ne sais pas si on peut dire libérée, mais en tout cas, d'être complètement présente. Et voilà. Là, il y a une grosse contraction qui réarrive. Et je sais qu'à ce moment-là, c'est vraiment le moment où mon bébé doit sortir. Donc, j'accompagne la grosse contraction. Et là, en deux poussées, en fait, mon bébé naît. Sachant que, du coup, j'étais à quatre pattes sur le lit qui était à côté du spa. Et quand mon bébé naît, alors il y a un moment, je me dis, mais comment dire? Là, c'est pareil, je sens pas ni le cercle de feu, ni le côté douloureux, je sens vraiment que c'est un gros bébé. C'est un gros bébé, et du coup, je me pose la question de sa position à ce moment-là, et puis finalement, tout baigne parce que c'est très rapide. C'est mon homme qui la réceptionne et qui la pose entre mes jambes. Et en fait, moi, quand je la vois, je ne sais pas encore que c'est une fille, mais quand je vois mon bébé, j'ai un élan d'amour comme sauté d'hormones complètement. Et donc, très naturellement, j'enlève un tour de cordon autour du cou, deux tours de cordon autour du cou et un tour de cordon qui était en bandoulière, en fait, qui passait sous le bras, comme ça. Et alors, je n'ai pas vu à ce moment-là, mais quand... elle est sortie, mon homme il a essayé de mettre son doigt en fait à ce niveau là et il s'est dit waouh, le cordon est serré. Moi j'ai pas eu du tout ce réflexe là, je l'ai vraiment déballé et en fait ça s'est passé juste nickel. Moi j'ai trouvé ça même hyper agréable en fait, j'avais l'impression de déballer un petit cadeau quoi. Donc c'était plutôt chouette et du coup voilà, là c'est le moment de la rencontre. Donc, c'est vrai que ce moment-là, c'est juste magique. Donc là, j'ai trouvé que forcément, j'ai regardé, je crois qu'elle a une vulve. Mon homme m'avait déjà regardé, il me dit oui, c'est bien ça. faut savoir qu'on n'avait pas de prénom pour les garçons et que le jour même, du coup, je me disais les prénoms qu'on avait sur la liste, en fait, ça n'allait pas le faire. Donc c'était un peu la panique. Donc en plus, c'était juste magique de voir que c'était une petite fille. Et du coup, voilà, par rapport à la naissance, alors que là, c'est assez rigolo parce que du coup, alors, mon homme a été regarder l'heure minuit pile, donc il dit bon, ok, c'est pas le 27, c'est le 28. Et du coup, alors moi, je sais que pour mes deux naissances précédentes à la maison, le placenta avait été un peu long, comme on peut dire, à sortir. En tout cas, pas du tout dans les protocoles hospitaliers où c'est 30 minutes et pour eux, c'est un peu inquiétant. Et quand j'avais fait le rendez-vous à la maternité aussi, les sages-femmes qui m'avaient accueillie m'avaient dit que c'est quand même important de veiller au placenta pour elles. C'était vraiment une inquiétude qu'elles avaient, qui disaient, bah voilà, plus on a de bébés, plus le risque d'hémorragie monte. Donc, il faut quand même être vigilant par rapport à ça. Alors moi, il faut savoir que je suis hyper anémiée à la base. En ferritine, je crois que j'avais moins de 2. Enfin voilà, c'était vraiment pas zozo au niveau des résultats, sachant que j'ai fait seulement 2 prises de sang sur toute la grossesse, donc on ne savait pas trop si ça avait remonté, pas remonté, etc. Par contre, j'ai en fait, pour aucune des naissances, j'ai saigné avant que le placenta ne sorte. Donc là, en fait, le liquide n'était pas teinté comme pour c'était le cas pour ma troisième, donc c'était nickel. Et à côté de ça, il n'y avait toujours pas une goutte de sang. Donc quand ma fille a eu une demi-heure de vie, elle a commencé à chercher la tétée. Donc c'était hyper important pour moi de vraiment la laisser faire. Donc on l'a vraiment laissée grimper jusqu'à mon sein, chercher, fouisser. Donc c'était un moment hyper, hyper émouvant aussi parce que c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'avais fait pour ma première, qu'on avait un peu collé au sein. Et puis alors, je l'avais fait pour mon fils et puis pour ma troisième. Je pense que je l'avais pas mal aidée parce qu'elle me semblait avoir un peu de mal, tout ça, alors que là, c'était vraiment magnifique à observer. Et du coup, je me dis, elle va téter, ça va relancer des contractions, puis ça va aider le placenta à sortir. Sauf qu'elle tète pendant 10 minutes comme une championne, et pas la moindre contraction, rien du tout. Et là, finalement, le temps passe, et je me dis, je ne trouve pas de contraction. Ça, il se passe une heure et demie, je me dis, bon, je vais essayer quand même de mettre... Et là, du coup, je me suis accroupie au-dessus d'un saladier. Donc, au niveau de la zone périnée, tout ça, c'est quand même pas super confort. Hein. Juste après la naissance, ça demande quand même un effort conscient de se mettre accroupie au-dessus d'un saladier. Et puis, finalement, à ce moment-là, en fait, le fait de bouger, peut-être, le fait qu'elle ait retété un petit peu entre-temps aussi, fait que j'ai réuni une contraction. Et donc, je suis allée aider un petit peu le placenta qui s'était décollé, finalement, mais qui n'était pas sorti. Il fallait que j'aide un petit peu à le sortir. Donc voilà. Alors au moment où la délivrance arrive, moi je trouve juste ça hyper chouette. En fait, moi, c'est vrai qu'on en a déjà parlé plusieurs fois lors des podcasts quand j'enregistrais avec diverses mamans. Le moment où en fait le placenta sort, moi je trouve que c'est vraiment hyper doux. Quelque chose que... j'ai vraiment l'impression qu'en fait là c'est la fin de l'accouchement. Enfin, jusqu'à tant qu'il n'est pas sorti, pour moi en fait on est vraiment en train d'enfanter. La photo que j'ai partagée, donc on voit sur la photo le saladier qui est à l'arrière, qui est vide encore. Donc c'est vraiment en plein enfantement. Je pense que ma fille est sortie depuis vraiment pas longtemps quand mon homme prend la photo. Du coup, moi, je me rends même pas compte, en fait, à ce moment-là, qu'il a l'appareil. Enfin, vraiment, j'ai pas vu du tout. Et je le remercie de prendre ces photos-là parce que c'est des chouettes moments dont on se souvient, mais c'est tellement flou, en fait, tellement baigné d'hormones que du coup, c'est chouette d'en avoir des images. Et puis, voilà, du coup, par rapport au placenta, donc, on avait un petit peu échangé avant de ce qu'on voulait faire du placenta. Pour mon deuxième, j'avais gardé un petit bout dans de l'alcool pour faire de l'isothérapie placentaire, donc l'équivalent de pour pouvoir faire des dilutions homéopathiques. Et là, j'étais pas forcément emballée, sachant qu'il y avait personne pour gérer ça. Mon homme, il avait pas forcément envie de manipuler un placenta. Moi, j'étais clairement pas là-dedans. Du coup, j'ai juste vérifié rapidement qu'il était bien entier. Regarder un petit peu la face côté bébé, la face côté maman, tout était ok. Et j'avais préparé de quoi faire un bébé lotus. Du coup, alors un bébé lotus, en fait, c'est laisser l'enfant relié à son placenta. Et l'idée, c'est qu'on va prendre soin du placenta comme on prend soin du bébé pour les premiers jours, en fait, jusqu'à ce qu'il sèche et qu'il tombe. Donc j'avais préparé un mélange d'herbes du jardin et de sel, de gros sel. Et donc on l'a mis dans un saladier, on a mis un torchon, du gros sel avec des herbes, le placenta, on a resalé par-dessus, puis on a refermé. Et du coup, j'ai trouvé ça assez chouette parce que je m'étais pas mal de fois posé la question. Je trouvais pas ça très agréable, en fait. Le cordon, donc, il pulse quelques temps. Là, évidemment, quand le placenta est sorti, ça faisait presque 2 heures que ma fille était née, donc le cordon avait arrêté de pulser. Mais le cordon, au départ, reste assez gros et assez froid. Donc, c'était pas forcément quelque chose de très agréable. Et finalement, j'étais très impressionnée de la vitesse avec laquelle il sèche. Donc, passé ce premier moment, je me dis, ah, c'est quand même pas très confort, pas très agréable. En fait, j'ai trouvé ça après hyper doux parce qu'il se met à température de peau à peau. Sachant que la petite blague que je faisais par rapport à comment font les hommes de Cro-Magnon, comment faisaient les hommes et les femmes de la préhistoire par rapport au méconium, c'est que elle a fait, quand on était en peau à peau, un très gros méconium et en fait, partout entre ses doigts de pied, et ça a été très compliqué à nettoyer. Je me dis, mais comment il pouvait bien faire? Enfin voilà. Donc en gros, le temps passant, il était déjà 2-3 heures du mat. Et puis on est resté collé, serré, à observer tranquillement ce petit bébé. Et puis voilà, on a profité. Je reviens faire un petit ajout parce qu'on m'a posé pas mal de questions. Je crois que celle qui est revenue le plus, ça va être par rapport à la déclaration de naissance. Du coup, alors en effet, il était convenu qu'on n'ait pas d'accompagnement médical. Ça, j'en avais déjà parlé. Par contre, on avait une sage-femme qui a accepté de venir, étant donné que la naissance est passée à minuit. Il me semble que la question a été évoquée par mon compagnon dans la soirée. Au moment de la naissance, il dit, est-ce qu'on lui met juste un petit message pour la prévenir? Et moi, j'ai préféré de ne pas le faire en me disant que je ne voulais pas qu'elle se sente dans une situation inconfortable d'être au courant, puis d'attendre des nouvelles un petit peu. Enfin, voilà. Je m'étais dit qu'on lui donnerait des nouvelles seulement quand bébé serait né. Et étant donné que la naissance a eu lieu à minuit, on lui a mis un message, alors je ne sais plus exactement, quand on s'est réveillé le matin, peut-être vers 7-8 heures le matin. Et du coup, elle a pu passer en fin de journée. Donc, elle est passée faire un petit coucou. Voilà, moi, je sais que j'ai trouvé ça très agréable de pouvoir lui présenter notre bébé. Elle a fait un petit check pour notre fille, puis un petit check pour moi. Donc, à ce moment-là, il me semblait bien de ne pas avoir eu de déchirure ni rien, mais voilà, elle a confirmé ça. Et puis, les quelques petites vérifications d'usage sur notre bébé. Par contre, ce que moi, je n'avais pas forcément compris, c'est qu'il me semblait qu'au départ, elle nous ferait le petit papier pour aller déclarer la naissance à la mairie. Et en fait, elle ne l'a pas fait. Alors, la dernière naissance à la maison, la sage-femme n'était pas là, mais elle l'avait fait, enfin, deux dernières naissances à la maison. Les sages-femmes avaient fait ce fameux petit papier. Et là, en fait, chose que je comprends, elle n'a pas souhaité le faire étant donné qu'elle n'était pas présente. Du coup, c'est le papa qui a fait sur une feuille volante un petit papier pour dire que ben voilà, notre enfant était né. Puis il l'a porté à la mairie. Alors, étant donné que c'était la deuxième naissance sur la commune, donc notre fille est née presque trois ans plus tôt, ça a été assez facile, il n'y a eu vraiment aucun souci. Voilà, donc ça a été déclaré de manière très simple à la mairie quelques jours après, sur simple présentation d'une lettre du pape. Après, j'ai pas mal de questions par rapport au postpartum immédiat. Donc, comme je le disais, moi c'est vrai que j'ai très peu saigné, sachant que c'est la troisième naissance à la maison, donc c'est la troisième fois où j'avais préparé des protections hygiéniques, donc je suis tout en lavable à la maison, mais j'avais quand même, alors je sais plus exactement, je crois 3 protections, des grosses protections type couche pour jeune maman,
où j'avais mis de l'aloe vera, un peu d'huile essentielle au congélateur. Voilà. Clairement, je sais qu'en postpartum immédiat, l'arnica et le frais comme ça, c'est vraiment quelque chose qui soulage énormément. Je les avais fait quelques semaines avant la naissence, hein, peut-être même dans la semaine avant la naissance, il me semble, quelque chose comme ça. Et c'est quelque chose de vraiment apaisant. J'avais préparé aussi une petite bouteille pour pouvoir m'accompagner quand j'allais aux toilettes les premières fois, donc avec juste un tout petit peu de teinture mère de calendula avec de l'eau, histoire de ne pas être brûlée au moment de la miction. Sachant que j'en ai pas eu besoin parce que j'avais vraiment pas du tout de petites déchirures. Donc c'est surtout dans ces cas-là que ça peut être apaisant. Pour bébé, j'avais préparé seulement quelques langes à avoir à disposition à côté. Et puis, pas forcément de layettes parce que j'avais vraiment envie de pouvoir rester en peau à peau, ce qu'on a fait en fait la première semaine. Sachant que c'est tout à fait possible d'avoir un bébé lotus et de l'habiller quand même. On peut trouver juste des choses qui sont un petit peu plus pratiques. Mais on n'a pas eu à le faire. Parce qu'on n'a pas eu besoin de se déplacer, par exemple.
Ça fait partie des avantages, en fait. Parce que du coup, il y a peu de manipulation du bébé. On est resté sur place les 5 premiers jours.
Quand je dis sur place, c'est à l'endroit même où, en fait, où ma fille est née. Du coup, moi, j'ai trouvé ça vraiment pas contraignant d'avoir mon bébé toujours relié à son cordon, sachant qu'elle a peu été mise de bras en bras au final. Et c'était pas forcément quelque chose qu'on souhaitait non plus. Parmi les choses qu'on avait prévues quant au postpartum, c'était vraiment ça, quoi, lenteur, douceur, chaleur. On souhaitait rester entre nous. Et du coup, quand les grands sont revenus, le lendemain, sachant que le 28, c'était une journée assez chargée parce qu'il y avait dentiste, il y avait la livraison du fioul à la maison, tout ça. Et les enfants sont arrivés, ont été émerveillés. C'est vrai que dans un contexte sanitaire comme actuellement, où les fratries, alors les Adelphies, sont séparées plusieurs jours lorsqu'il y a un séjour à la maternité, on était vraiment enchantés, d'autant plus de leur permettre de se découvrir aussitôt. Sachant que le lien entre les enfants, c'est quand même quelque chose d'assez magique, parce qu'on se rend compte que ça se construit déjà tout au fil de la grossesse, et que ça s'est vraiment vécu comme une évidence. Donc ça, c'était vraiment un plaisir. Et puis, je pense que ma petite dernière, enfin bon, du coup, celle qui était ma petite dernière avant, ma fille de 3 ans, bientôt 3 ans, était vraiment en demande aussi de beaucoup de contacts. Donc le fait de pouvoir retéter notamment, ça a été pour elle vraiment bénéfique. Finalement, la transition, elle a été hyper naturelle. On est passé de 5 à 6. Donc, là-dessus, ça a été vraiment chouette. D'autant plus que, étant donné que c'était les vacances, peut-être la dernière semaine, enfin, voilà, les enfants de niveau collège, et, donc, les amis de mes grands, étaient disponibles. Donc, ils ont passé quand même pas mal de temps. En plus, c'était une semaine où il a fait relativement beau, donc ils ont pu pas mal jouer et tout. Ça, c'était vraiment chouette pour eux d'avoir la possibilité d'aller avec leurs copains à leur guise, avec pas mal d'autonomie. Donc ça, c'était quand même vraiment chouette. Et nous, mine de rien, ça nous a permis aussi de moins nous mettre la pression, d'être centrés vraiment sur bébé et de savoir qu'eux, ils pouvaient remplir leur réservoir affectif. Donc ils avaient déjà fait bien le plein en fin de grossesse, mais que, du coup, ils pouvaient aussi profiter de leurs copains sans que notre manque de disponibilité soit un souci pour eux. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, au niveau des dernières questions que j'ai eues, c'est par rapport à l'hygiène naturelle. Alors, je crois qu'il faudrait presque faire un épisode entier, parce que c'est quand même un sujet assez vaste. Moi, c'est ma 4e expérience d'hygiène naturelle. Et oui, c'est possible depuis la naissance. Donc, en gros, l'idée, c'est de rester vigilant aux besoins d'élimination de son bébé, de son enfant. Il y a plein de manières différentes de pratiquer l'hygiène naturelle. Nous, on a du coup vraiment été dans l'observation tant que notre fille était reliée à son placenta, Donc concrètement, on essaie de repérer un petit peu les petits signaux, les petits mimiques, les petits sons qu'elle peut émettre, avec l'idée que ça puisse être une manière de communiquer son besoin d'éliminer. Et je ne lui ai pas proposé ni au-dessus du lavabo, ni au-dessus du pot. C'était vraiment le linge, j'ai changé les linges au fur et à mesure. Et à partir du cinquième jour, j'ai commencé à faire les premières propositions. Et ça fonctionne. Alors ça fonctionne, c'est toujours délicat de dire ça, parce que l'idée, c'est pas d'avoir une rentabilité avec quelque chose qui marche et tout. Mais en tout cas, oui, la communication fonctionne et ça, c'est vraiment chouette. De le voir est souvent bluffant quand on ne sait pas que ça existe, en fait, finalement. Du coup, voilà. Je pense que je reviendrai peut-être à l'occasion sur ce sujet-là. En tout cas, on peut trouver maintenant beaucoup d'échanges à ce sujet, sur cette thématique-là. Que je vous invite à chercher un peu plus d'informations si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure-là, parce que c'est quand même quelque chose d'assez chouette. Après, alors je vais garder cette dernière question pour la fin. Est-ce que c'est plus difficile de donner naissance quand on est doula? Alors ça, c'est un grand mot. Je pense qu'en effet, à partir du moment où on est immergé dans le monde de la naissance, j'ai envie de dire, les questions sont pas forcément les mêmes, on n'a pas forcément les mêmes informations, donc ça a un côté très positif pour beaucoup de choses, je pense, vraiment. Et en même temps, c'est peut-être plus délicat à certains moments de réussir à lâcher le mental et à se dire que bah voilà, là, c'est nous qui donnons naissance. On n'est pas dans ce rôle-là. Quand on est habitué à être dans le rôle de porter l'espace, de prendre soin, de réussir à se détacher. Et puis, au niveau du mental, en effet, oui, ça a peut-être joué. En tout cas, on s'est posé la question quelques jours après la naissance avec mon homme qui, lui, d'un point de vue extérieur, a eu l'impression justement que j'avais plus de mal à lâcher. Après, voilà, on ne sait pas exactement. Il y a énormément de questions qui resteront de toute façon sans réponse par rapport au temps. Est-ce que ma fille a été plus longue à descendre parce qu'il y avait des tours de cordon autour du cou? Est-ce que, voilà, on peut imaginer pas mal de choses différentes, mais toujours est-il que on n'aura pas forcément les réponses. J'ai même envie de dire, c'est pas plus mal comme ça, parce qu'avec des « et si », on peut imaginer plein de choses, et c'est souvent des choses qui sont pas très positives, parce que, comme je pouvais le dire dans le dernier épisode hors-série du podcast, on essaie de viser souvent une perfection en se disant, voilà, l'idéal, ça serait comme ci, ça serait comme ça. Et puis, on est parfois déçu sur des petites choses qui sont ce qu'elles sont. Et est-ce que c'est fondamental que tout soit vraiment raccord avec ce qu'on avait imaginé? Je suis pas sûre. En tout cas, voilà. J'aurai plaisir à échanger. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre soutien et à très bientôt, parce que j'ai la chance d'avoir autour de moi pas mal de jeunes mamans et de jeunes papas qui ont très envie de raconter des enfantements assez transcendants. Donc à très bientôt pour de nouveaux épisodes.
Merci. J'espère que vous avez passé un beau moment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, mais également à partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Je fais le choix de ne pas proposer de publicité. Libre à vous de participer et de contribuer. Vous avez la possibilité de le faire via le compte Tipeee « Enfanter et devenir ». On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.